Hey, can we have three whiskeys?
Yes.
Hey, can we have three whiskeys?
Yes.
Hey,
that's
can we have three whiskeys?
Yes.
Give me a drink.
Hey, can we have three whiskeys?
Give me a drink.
With you.
Can we have
some coffee?
I'm not sure if
it's
necessary.
Give me a drink.
En partenariat avec Actoral, Festival des arts et des écritures contemporaines, dont la 7e édition a lieu à Marseille du 29 septembre au 11 octobre 2008, Grenouille invite 3 auteurs ou artistes à bivouaquer sur ses ondes. Premier bivouac, aujourd'hui, avec René Gagnon, poète, qui vit et travaille à Montréal. Plutôt que d'orchestrer des extraits de son propre travail, René Gagnon a choisi d'animer une émission au cours de laquelle elle privilégie la rencontre et l'échange avec plusieurs auteurs rencontrés pendant le festival Actoral ou croisés 2 ans auparavant à l'occasion d'une lecture publique à la librairie L'Histoire de l'œil.
Bonjour, vous êtes à Radio Grenouille pour un bivouac avec René Gagnon et ses invités. Donc, aujourd'hui, j'ai invité Guillaume Fayard, Ludovic Bablon et Arnaud Caléja à me rejoindre pour la séance de radio. Salut Guillaume.
Salut René.
Ça va?
Ça va bien, oui.
on s'est un petit peu parlé hier quand même.
Oui, à Montevideo, à la suite de ta performance, donc Steve McQueen, mon amoureux.
Ouais. Et tu me disais qu'en fait, cette année, tu as pris une année sabbatique. Trop chanceux.
Oui. Oui, depuis octobre dernier, en fait, j'ai arrêté d'aller à la bibliothèque où je travaille habituellement. Et ironiquement, en fait, très rapidement, je me suis mis à écrire un livre qui exploite ce moment régulier, bête, qu'on connaît tous, qui est le trajet du travail. Et donc j'ai continué en fait en pensée et en écriture d'aller tous les jours au travail à Miramas, à la bibliothèque. Ouais. C'est assez terrible.
On se repose pas mal dans ce temps-là.
Enfin, le trajet lui-même fabrique un paysage assez... qu'on pourrait croire sorti de films américains, par exemple, mm-hmm. de western.
C'est pas un road trip.
Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse du road trip, ouais. Ce qui m'est apparu, c'est que à la base, le projet du texte est venu d'une sensation d'épuisement total de ce paysage, justement. Tout le projet du livre a été de recréer de l'espace à l'intérieur de cette tautologie et de la rendre habitable à nouveau,
ouais,
d'une certaine manière.
Ouais.
Le livre est en cours, voilà, un petit extrait est paru aux éditions Contre-Pied à Martigues, qui est une petite maison d'édition qui publie des plaquettes simplement photocopiées et agrafées. Donc c'est dirigé par Olivier Domergue et Brigitte Paladi, l'association Autres et Pareils. Et le petit extrait qui figure donc dans ce Promenade au phare est issu en fait d'une invitation, d'une lecture en fait que j'ai donnée à l'Odeur du Temps à Marseille dans le cadre des activités d'autres appareils justement. Voilà, je crois que mon terrain d'exploration dans l'écriture, c'est vraiment ces zones interstitielles en fait qui sont au bord, qui sont voilà.
Ah ouais, puis quand tu dis que tu décris par exemple de la musique, c'est quoi? C'est la musique que tu écoutais sur le chemin?
Ça peut être des moments de radio ou par exemple... le projet de ce livre, c'est se joue principalement dans la construction de phrases en fait. C'est-à-dire les phrases peuvent être assez courtes ou assez longues, et elles essayent chacune pour elles-mêmes de reconstruire leur propre contexte de possibilités et de rester en même temps ouvertes. C'est ça que le lecteur a beaucoup à faire finalement, doit convoquer lui-même son expérience perceptive et de vie, quoi, pour compléter, disons, les ouvertures que le texte ménage, disons.
Est-ce que ça tente d'écouter en fait un extrait?
Oui, parce que j'ai réalisé un enregistrement d'un passage du livre qui est un essai sur les routes et qui explore justement, de manière assez distanciée, le Duel de Steven Spielberg, puisque la bande originale de Duel en fait est présente dans cette petite composition sonore.
Ok, on va faire ça. Ok.
Promenade au phare. Un essai sur la route. Sur le trajet de mon travail, les deux bords de la route ne sont pas symétriques. La plupart du temps, la route coupe à droite et à gauche deux zones entièrement divergentes, voire antagonistes. Steven Spielberg avait bien raison, pour son film Duel, de partir du principe que gauche et droite des routes ne coïncidaient pas, et d'en coller bord à bord les versants inconciliables, aux fins d'en démultiplier la longueur efficace pour le tournage. S'il n'y a pas rapport symétrique entre deux bords de route, il y a bien des rapports quand même. Des rapports de continuité, pente douce. Des rapports de cause à effet, platane à gauche, ombre calme et un banc à droite. Ou bien de simples rapports de contiguïté, montagne accidentée et blanche, buisson, sentier jusqu'à la route, étang, usine, horizon, cheminée fumante, falaise, cône, orange, blanc, zébré indiquant danger, signalétique, boîte aux lettres, clôture, arbre, pelouse, jardin, table dans le jardin et magasin, pont romain, rivière, herbe, dépression immédiate, sable et décharge publique à ciel ouvert. Parfois, on pourra constater des symétries exactes, malgré l'hétérogène ambiant, deux rangées de platane. Ce sont des symétries parfaites. L'équivocité d'une zone artisanale, labyrinthique à force d'être de bout en bout rectilinéaire, HLM, LH, implantation recto-verso, urbanistique, et la route en miroir entre les deux. Autres effets de symétrie, les routes, installées à la dynamite contre toutes les attentes géographiques, de falaises identiques striées par les machines, la rectilinéarité de l'avenue dans certaines villes, champs de maïs, forêts, montagne. Et pourtant, la plupart du temps, la disjonction est systématique. Un effet de symétrie réussi demande-t-il à être truffé de dissemblances subtiles pour échapper au cauchemar du même, à la pure circularité de la tautologie? Un autre facteur vient altérer l'évidence droite-gauche. Le paysage bouge à son rythme, et la route l'a coupé en deux il y a un certain temps déjà. La route bouge sur place, alors que ses bords s'arrondissent, s'effondrent, s'incurvent, s'érodent, se creusent, tombent, sont remplacés. On se gare, on revient, on oublie quelque chose. Des maisons se construisent. On chie caché dans la lumière des phares et le lendemain, papier hygiénique. Des usines sont détruites ou réaménagées. Des papiers sont jetés. Des zones en friche sont murées, puis rasées. C'est un garage. Des camions viennent. Une aire de stationnement, une installation électrique. On repasse, on se gare. Les roues s'enfoncent. On revient. Quelqu'un oublie quelque chose. Il revient. Il ne revient pas. Quelqu'un trouve. La distribution de la bordure. Une route est la lisière de deux lieux indifférents l'un à l'autre, dans les usures de ce regard, avant les plus notables évolutions ensemble.
Hey, can we have three whiskeys?
Yes, sir.
Hey, can we have three whiskeys?
Yes.
Hey, have some coffee. Three whiskeys.
Yeah. Yes.
Give me a drink.
Hey, with can you. We have three whiskeys.
Give me a drink.
Yes.
With
hey,
you.
Can we have three whiskeys?
Have some coffee.
Yes.
With
you.
I'm
not
give
sure
drink.
This
we
is
three whiskeys.
With now. Give me a drink.
Like
buy a drink.
Have three
whiskeys.
With you.
Give me a drink.
Have some coffee.
We just want
to drink.
Buy a drink.
On est en ligne.
Oh, ça fait bizarre. C'est bizarre la radio. J'ai toujours
alors, comme
ça
vous pouvez le constater, on a un nouvel invité, Ludovic Bablan. Salut.
Salut.
Je voulais juste revenir avec toi, Guillaume. En fait, est-ce que c'est une pratique que tu fais souvent d'enregistrer, de travailler un peu le son comme ça? C'est quelque chose
qui m'intéresse depuis assez longtemps et qui est venu progressivement d'abord par la découverte de la musique concrète notamment et un intérêt pour le son en général. C'est sûr que c'est un exercice différent de l'écriture mais qui moi me renvoie à une pratique musicale par ailleurs, Et ouais. Voilà, qui...
Allô?
Allô? Oui, oui, il y a un vide.
Mais donc, est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu t'accompagnes, par exemple? Est-ce que tu...
Non, non, pas du tout.
Est-ce que tu
non,
crées de la musique pour ensuite...
Oui, j'ai une pratique de la musique depuis quelques temps à nouveau, oui, après avoir longtemps arrêté de pratiquer ça. Mais c'est, pour moi, c'est autre chose, quoi. C'est un autre espace de création, oui, oui.
On pourrait peut-être commencer par écouter un petit extrait de ce que tu fais en fait avec
ouais,
la guitare.
De Gibbs, bon c'est
ça vraiment s'appelle pour, Gibbs.
Oui, okay. Oui, c'est un petit cadeau, une petite gratuité comme ça. C'est un enregistrement de répétition. Voilà, c'est un projet avec Yvan Ross à la batterie qui fait partie avec Guillaume Wickel qui joue avec nous de la clarinette basse d'un autre groupe qui s'appelle Astrid. Qui a fait un double album récemment chez Arbouze Recordings qui s'appelle Et Esperluette, le petit et ouais. Typographique. Et voilà, donc c'est un projet qui nous réunit comme ça. On est cinq avec donc Bruno Ross, guitare, Yvan Ross, batterie, Guillaume Wickel, clarinette basse, clarinette, et Samuel Rocherie, qui est aussi poète, ouais. Qui fait de la basse. Et voilà.
Merci.
Disons que la musique, pour moi, c'est vraiment un espace qui permet de projeter les mêmes conceptions que dans l'écriture, finalement. C'est assez proche. Et le moment de la musique, le moment de jouer, est très proche du moment de l'écriture même. Quoi.
Puis il n'y a jamais de parole.
C'est de la composition purement musicale.
Est-ce que c'est toi qui fais la composition?
Je fais beaucoup de compositions, mais ensuite on retravaille tout ensemble en ouais. groupe et c'est là que finalement les morceaux émergent. Vraiment. Mm-hmm. Voilà. Et tu as toi aussi une pratique musicale d'ailleurs?
J'appellerais pas ça en fait une pratique musicale, mm-hmm. mais c'est plutôt que je vais faire comme Ludovic avec ses samples, mais mm-hmm. je vais pas faire des trucs punk ou.
D'accord. Ou du rock.
Mais c'est surtout, c'est ça, je joue un peu avec, si tu veux, soit des échantillons ou soit des bruits réels mm-hmm. que je vais ensuite transformer mm-hmm. pour. pour mettre un bon pour faire une pièce sonore.
Voilà, faire une pièce sonore. Donc, mais hier à Montevideo, donc Steve McQueen, c'était intéressant par rapport à ça, puisqu'on on avait à la fois donc toute la lecture performance et appuyée par des images de Steve McQueen et tirées de tous ses films. Il y a plusieurs moments musicaux d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils proviennent des bandes originales des films, ou si c'est des choses composées par ailleurs.
Et il y a de tout en fait là-dedans. Ouais, il y a des choses qui viennent des films. Il y a des choses qui viennent des films transformés.
D'accord.
Puis il y en a que c'est de la musique originale, on va dire.
D'accord. Ouais. Ouais. Ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, c'était certains jeux de ping-pong entre trois voix, par exemple, trois ou quatre voix, à certains moments dans ta performance, c'est assez efficace et complexe. Enfin,
ça fait beaucoup d'informations en même temps.
Beaucoup d'informations, ouais. Mais c'est jamais indigeste. Et c'est là que c'est assez réussi. Mm. Mm. Et le son, alors, la pratique du son, elle est venue par la fabrication de bandes-son, comme ça, de pièces sonores
C'est venu surtout justement que je voulais voir un peu comment travailler la voix avec une musique ou quoi. Mais au début, ce que je faisais, c'était je prenais une musique qui existait déjà, puis je posais ma voix dessus pour voir. Puis là, je jouais un petit peu avec la musique existante. Mm-hmm. Par exemple, j'avais fait un truc sur la musique de Elias. Puis bon, un peu hip-hop comme ça. puis ensuite, quand j'ai vu que ça m'intéressait plus, j'ai commencé, à explorer un peu plus de logiciels, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée à vraiment travailler. Mm. Puis l'année passée, en faisant le projet McQueen, j'ai fait une résidence de 10 jours chez Avatar, qui est en tout cas c'est à Québec, puis eux travaillent le son beaucoup.
D'accord.
Puis à ce moment-là, eux me proposaient de faire 50 minutes de musique. J'ai comme composé, si tu veux, une des pièces, puis les autres, je les ai improvisées. Avec des échantillons qui m'intéressaient, qui venaient tous des films de Steve McQueen, puis que je travaillais comme ça. Donc, je pourrais peut-être vous en faire entendre une.
Oui.
Puis après ça, on va passer à la chanson de Ludovic.
Thank you.
Donc, je vais aller, oups, un extrait de Promenade au phare dont on a parlé déjà et dont on a entendu un extrait audio. Donc, c'est le chapitre 12. Sentier tuyau. Je peux parcourir mentalement l'intégralité du trajet qui me conduit, où je conduis tous les matins de chez moi au travail. C'est un tunnel en trois dimensions qui, dès que j'y pense, pour autant que je ferme les yeux, apparaît. Je le connais par cœur. Je peux le parcourir dans tous les sens. J'en connais les recoins et les différentes sections. Brins d'herbe, usure des bâtiments, je peux tout voir, les noms des magasins, tronqués, les enchaînements sans suite entre plantes et goudrons. Comparaison immédiate, le DVD, automatique. Un DVD est un lieu parcourable à l'infini au sein d'un univers fini. Je me passe la séquence. Il y a comme une plastique du film qui ajoute quelque chose, un plan, une habitude, enveloppe, une pellicule, un emballage, une organisation, un sens sentier comme passage personnel, privé, et direction, privée. Sillon creusé jour après jour à taille humaine, ou presque, véhiculé, tuyau. Tube, dans la mémoire, tube, dans des images, dans le comportement. Nombre incroyable des panneaux dont je ne vois que le dos du côté à gauche. Leur architecture de fer blanc qui n'indique rien. Ce que je vois le soir dans l'autre sens en très grand nombre avec les pins autour, à moitié morts dans cette lumière violente. Fermer les yeux n'est pas indispensable pour activer la zone, l'intégralité du trajet. En réalité, peu importe l'endroit, l'image me vient très facilement. C'est une sorte d'arrière-plan général. Tout m'y renvoie. J'en suis parcouru et bien sûr plus juste. Il faut pourtant admettre qu'à peine l'image apparue, elle s'enfuit. La mémoire semble fonctionner non pas comme caméra, je l'ai souvent pensé, mais bien comme appareil photo. Non. Série d'éclairage? Flash. Et la matière de ça dérivant lentement vers une obscurité de transition? Et trace image, vite essuyée ou bien reste en latente avant effacement, reclic, etc. Tout ça bien trop photographique. Voilà, c'était l'extrait de Guillaume Fayard, Promenade au phare, qui a été édité dans un... En fait, c'est un extrait qui a été édité à contre-pied. Et c'est un petit extrait d'un texte qui fait plus de 150 pages. Et voilà. Et puis, on va passer à la dernière pratique musicale du groupe, c'est-à-dire la chanson que Ludovic va nous chanter. Comment ça s'appelle?
Ça s'appelle « Calcul des profits et des pertes », sous-titre « La danse d'amour du diabolique Dr Fourbus ». Et c'est le dernier épisode d'un feuilleton que j'ai écrit en 2005 pour une revue, pour un magazine, le Matricule des Anges. Et c'est un céphalopode qui chante. C'est un céphalopode qui a volé, qui est devenu l'argent et qui a volé la banque. Et donc c'est une chanson de triomphe. Clap. Clap, clap, clap. Je flippe et je tape. Je clippe et je clappe. Je force et je trappe. Tu peux pas m'attrape. Je happe et je trippe. Je groupe et je chip. Je hache et j'agrippe. Et puis je pars en trip. Je saoule et je syncope. J'ai le fric et la dope. Je cours et je galope. Je descends jusqu'au top. Je déclare mon hold-up. J'oublie ma pin-up. Y'a tout qui est down-up. De yard, j'ai pas up. J'expire et je pompe. Je gratte et j'estompe. Je me gratte et je me trompe. Je mens et je détrompe. Je pique et j'occupe, je type et je dupe, je m'en vais d'où ça huppe, je m'enfuis d'où ça huppe, je sours et je rampe, je me mouille et je me trempe, je me barre et je décampe, je me plante sur la rampe, j'ai le cœur qui chaloupe, faut pas que je me loupe, toutes mes pattes se regroupent, je fonce par la poupe. Je trie et j'en mêle, je crie et je fêle, je chante et je hèle, je feule et j'appelle, je nage et je cabriole, je m'étends et je m'étiole, je sauve et je viole, ville, vol, cambriole. J'allume et j'empoule, je défonce et je déboule, je fonds et je découle, j'effondre et j'éboule, je mange et je gueule, je joins et j'ai seul, j'envie et je vole, je lime et je meule, je me tire à vraie bulle, je soustrais les cumules, je commence le calcul, j'ai le corps qui bascule, les paupières qui se voilent, les yeux qui s'étoilent, les bras qui se dévoilent, je suis bien ginal. Je bois et j'empile, je vends et je deal, j'affine et j'affile, je file et et j'instille. Je plonge et je détale, je gicle et j'étale. Pardon si je m'étale, je fais le calcul total.
Yo, c'était cool.
Oups. Non, c'est pas fini.
Excuse.
Je viens de te dire, je fais le calcul total.
Oui, ok.
Écoute bien le calcul.
Oui, okay,
c'est pas fini. Je te dirai quand c'est fini.
Ok, ok.
D'accord.
Ouais.
Allez. Je plonge et je détale, je gicle et j'étale. Pardon si je m'étale, je fais le calcul total. Les suicides qui ratent, les ennuis qui matent, les croupions qui statent, les espoirs qui se gâtent, les envies qui te quittent, les soupçons qui te fritent, les peurs qui t'habitent, les joies qui t'évitent, les tarés qui guettent, les sueurs qui te vêtent, les usures qui se prêtent, les fatigues qui te fêtent, les cancers qui trottent, les troupeaux qui rotent, les foules qui barbotent, les folles qui marmottent, les virus qui boutent, les excuses qui coûtent, les déclics qui floutent, les larbins qui croûtent, les culottes qui sautent, les héros qui fautent, les nuls qui chapeautent, les projets qui sautent, les toux qui t'esquintent, les cafards qui chuintent, les bipèdes qui suintent, mes huit pattes qui feintent. Ah mais non, j'ai honte. Mais qu'est-ce que je raconte? Mes pattes sont trop promptes. Il faut tout que je recompte. Les victimes de drames, les bouffons qui rament, les planteurs de cam, les bourgeois, leurs femmes, les chalands du schlem, les ardents de la flemme, les dealers de blême, les nuls du système, les voleurs de cum, les vendeurs de derme, les fumeurs de drum, les employés chum, les forts en symptômes, les moudés de paume dont les blés en baume près des villes qui chôment, les épouses de groom qui abalent doum doum avec de grands boums, poncent le living room, les sauteurs d'abîme, les chasseurs de primes, les riches en centimes et les anonymes. Ça fait, si je résume, mettons, je présume, disons, un volume. Oh ben Dieu, c'est la brume. Oh là là, bonhomme, tu te mets le doigt, ça comme. T'atteins pas le quorum. Faut que tu refasses la somme. Tous les faits qui causent, les uns qui névrosent, les autres qui coupent rose, les tiers qui s'opposent, les quarts qui s'écrasent, les caisses qui s'embrasent, les basses qui s'envasent et les kamikazes, les propos qui frisent, les moments qui crisent, les richards qui te lisent, l'auteur qui balise, les arbres qui braisent, les badauds qui se taisent, les tours qui les lèsent, les flammes qui s'apaisent, les flics qui abusent, les gens qu'ils accusent, via des ruses qui usent plutôt qu'elles n'amusent, les gambettes bourgeoises ou des routes qui se croisent, des coins qui se déboisent près des forêts de noises. Ça fait combien de gonzes? J'ai compté les bonzes. C'est 8 x 111. En or ou en bronze? Ou bien 3 fois 12? Ah non, il y a une bouse. J'ai fumé trop de pelouse. Je recompte mes ventouses. Les travaux qui te tâchent, les talents qui se gâchent, les plaisirs qui se cachent, les propos qui fâchent, les répliques qui touchent, les piques qui font mouche, les ripostes louches, les bouteilles qu'on rebouche, les paroles qui lèchent, les discours qui prêchent, les réponses qui pêchent, les questions qui sèchent, les silences qui piochent, les oui qui filochent, les non qui amochent, les oui non qui yochent, les logiques qui penchent, les courages qui flanchent, les joies qui calanchent, les rois du dimanche, les droitures du gauche, les ruses à l'embauche, les envies de débauche, les profits de la fauche, les foies qui trébuchent, les chasses aux embûches, les trésors qui pluchent, les gagneux qui se juchent. Cette fois, y a pas de triche. La victoire s'affiche. Total du bac chiche, une mère de rime riche. Et là, on va dire ça.
Ouais, cool. Bon, tu veux qu'on t'applaudisse?
Qu'on m'applaudisse, bien sûr. Bah, je vais m'applaudir. J'adore les applaudissements. Je ne suis pas du tout critique à l'égard de cette pratique sociale super digne. C'est assez consubstantiel pour moi, l'écriture et l'écriture, la poésie et les paroles de chansons. Et je crois que c'est la forme moderne du poème, quoi. La poésie écrite est pas quelque chose qui existe beaucoup dans notre société. C'est un petit monde, quoi. Il y a peu de lecteurs. Tandis que la poésie sous forme chantée, c'est vraiment le truc qui a du succès. C'est la forme poétique d'aujourd'hui.
Quand on s'est vu, il y a 2 ans, en 2006, t'étais en train d'écrire Kinski.
Ouais, bon, on peut se revoir en 2016, et sans doute j'y serai toujours.
Ouais. Je me souviens que t'étais super passionnée, puis ça me renvoyait beaucoup à moi, parce qu'à ce moment-là, j'étais en train d'écrire McQueen. Puis bon, on avait comme une espèce de... chacun une obsession sur quelqu'un. Puis donc je me reconnaissais beaucoup dans ton obsession. Puis ben, où est-ce que t'en es rendu dans ce projet-là?
Je crois qu'on n'a pas le... On fait tous les deux... On a fait de la littérature à partir d'une star, d'une icône de cinéma. Je suis pas sûr qu'on ait le même rapport. Toi, t'as l'air de dire que t'en es amoureuse, même si t'en joues un peu, mais t'as été fascinée par... mon rapport à Kinski est un peu différent. Je suis pas tout à fait fan de ce qu'il a fait. Je le déteste autant que je l'apprécie. Et je l'instrumentalise énormément et je me fous de sa gueule aussi, hein. C'est-à-dire que donc j'écris un roman qui est une biographie en 6 livres. C'est narratif, mais justement un des enjeux esthétiques de la chose, c'est de faire un truc très très polymorphe, quoi. Aussi bien il y a un script de western dans le livre 3, donc il y a du théâtre racontant de la poésie dans le 1, il y a des récits de tournage dans le 2, dans le 6, il y a du cartoon et de la pornographie, donc beaucoup de genres. Je me suis intéressé à lui parce que justement il me permet d'aller dans énormément de secteurs, de genres, de formes. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il est, il me sert de support pour traverser l'histoire du cinéma. Mais j'en suis pas fan et je le ridiculise assez volontiers.
Mais Ludovic, est-ce que tu peux nous T'as-tu amené
j'en ai des bouts, j'ai amené le 6 notamment.
Donc tu peux nous lire le meilleur.
Ouais, le best of Kinski.
Yes.
Bah, je vais lire un truc qui se prête à être lu. Alors son cœur avait cessé de battre, et il était fou amoureux. Disparu son cadavre sous des vêtements de fortune, il traversa toute la maison, couloir en catimini, hardi sur les 3 étages d'escalier. La dernière porte au fond s'ouvrait sur sa salle de projection personnelle, où il passait son temps d'ordinaire, se replongeant dans ses vieux films. Ces derniers temps, il avait commandé par catalogue une série de cassettes vidéo qui lui avaient parlé. Elle racontait la vie des animaux qu'il aurait voulu être. Il projeta sa cassette préférée, Secret de l'Amazonie, en 4 mètres par 3, et commença à transparaître en filigrane entre les branches de la forêt de pluie. Il glissa en fast-forward à la fin du documentaire, ce long ruban fluvial d'un travelling en hélico glissé à la verticale de l'Orénoque et, l'embouchure atteinte, entreprit la remontée des méandres vers la source. D'un trait, il vit l'horreur, il vit la gloire, il vit les empêchements, sous des lianes, sur des sables, par des canaux sinueux. Ces femmes en jupon, ses amis et ses porcs emportés dans la grâce, tous les enfants qu'il aurait pu avoir, les pantins biographiques qui s'étaient tramés dans sa glaise, sous l'œil des bêtes des bois qui courent toujours quelque part, ses frères et sœurs morts-nés, tués par l'horreur de n'avoir pas vécu, ses ancêtres polonais, exterminés à 15 ans par le souvenir d'un terrifiant avenir. Les mascarets de truites sauvages frayant des perles à leur retour dans les volcans éteints des îles en érection, les jeunes veaux, dorés au feu et au soleil sur les charbons de bois d'une veuve de 30 années en Inde. L'activité granuleuse de la roche tapée contre le ciel et l'érodant par masse, avec des pluies horizontales délavant les naufrages de toutes les îles de l'archipel l'une après l'autre. La fuite dramatique et irrégulière de ses souvenirs les plus fondamentaux, et leur retour par léger glissement de faille de pays en pays dans le dédale des villes. L'inclinaison de l'axe de la Terre pour saluer sa mère morte et les soirs où il avait titubé des hontes métaphysiques du théâtre. Les poseurs de bombes qu'il avait dû rencontrer en secret à chacune de leurs explosions entre une rue et un prince, une cagette et un banc. Une aventure sentimentale en Tchécoslovaquie. Les pestes buboniques de l'amour qui lui avaient morflé les sentiments par groupe de 20 au retour des plaisirs. Les pires instants qu'on ait jamais vécu en ville. La prise en otage de ses impressions intimes, abattue sans revendication, croulant les mains en l'air, sous le poids des crimes qu'au prix de tout l'argent de ses boys, il ne pourrait payer. La force de vaincre, qui lui était échue contre le froid le matin dans les bois, ses anciennes peaux déjà recousues entre elles pour revêtir les pires organismes morts, et de nouveau vivants, et morts. Les ponts enragés de froid, qui lui avaient tendu la main aux 3/4 de la nuit, après que les patrons de cinéma l'avaient laissé pour mort à la sortie de l'hiver, avec son sang glacé d'effroi, qui, par 5 fois, avait pompé le vide à l'annonce des nouvelles successives de la mort, de Dieu, de la poésie, du roman, du théâtre et du rock. Les brumes au-dessus des forêts du monde, qu'il n'avait pas pu voir quand le délire cramé des fièvres le faisait reculer d'un coup dans l'ombre sous l'assaut d'un jaguar aquatique. Les plateaux de joie que son œuvre immontrée avait traversés, les déserts où sa folie avait campé, les kératines marbrées et les fines tignasses blondes qu'il avait caressées en douce dans le dos froissé des bus, et les traces de douleur que les rencontres avaient marbrées dans sa graisse, flottaient dans l'espace tout autour. Et l'on voyait la jungle.
On était comme dans un autre... dans un autre état. Bon. On va changer de sujet. Il nous reste juste 20 minutes d'enregistrement. Oui. Il y a Xavier Thomas qui me parle par voie de papier. Puis si on parle, par exemple, de d'autres artistes qui sont, en fait, qui appartiennent pas au milieu de la littérature.
Ouais, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait des choses avec l'art plastique aussi, des gens dans l'art plastique. Mm-hmm. Donc, j'ai des projets et des envies de BD, donc de bouquins avec des plasticiens, donc la musique, écrire des paroles. Et ouais, à Berlin aussi, j'ai rencontré des gens qui sont un peu vidéastes, un peu photographes. Mmh. Et ouais, on a commencé à élaborer un scénario qui sera un monologue à poser sur la mort filmée d'un moustique. Et ouais, vers le milieu de la vidéo, il se retrouve sur le dos, quoi, décalqué. Alors, il agite ses petites pattes. Ça fait assez penser à Kafka. Donc, j'ai développé un petit monologue là-dessus. Donc ouais, j'ai envie de faire des choses d'adapter mes compétences littéraires à plein d'autres choses, quoi, à plein d'autres types de récits notamment.
Ouais.
Multimédia.
J'ai commencé à pour ma part, surtout cette année où on va dire depuis peut-être 2 ans là, mais avoir des collaborations comme ça avec justement des vidéastes ou j'ai fait un petit film avec une réalisatrice. Là, je vais faire une collaboration avec une compositrice de musique contemporaine, mais qui utilise aussi des DJ dans ses compositions. Puis je trouve ça, en fait, hyper stimulant. Ça peut faire mouvoir l'écriture. Puis ça peut ça lui donne, en fait, une autre dimension. J'ai apporté la bande du film qu'on a réalisé. Là, malheureusement, on n'a pas l'image, mais on a quand même la bande. Fait que c'est une musique que j'ai faite avec la voix qui a été filmée. Voilà. Ça s'appelle « Qui est là ?»
Oui, bouge dans le noir, l'endroit à l'envers. Une forme qu'on se lève, appelle des yeux, se soulève. Une masse, un truc informe se lève. On fait en sorte que plus encore, parce que regardez, elle bouge l'informe. Forme se meut qu'on détecte quand on soulève. On lève les yeux sur noir, plus noir dans noir derrière l'œil. Qu'on ouvre, qu'on lève, on se demande s'y approcher. Approcher la chose, une chose qui lève sans yeux, une patte. C'est un truc grossi qu'on sent qui approche. Nous, sans approcher, on voit sans reculer. On se demande s'y approcher. C'est un truc mouvant sans contour, bouge de forme se meut qu'on détecte quand on soulève. On lève les yeux sur noir, plus noir dans noir derrière l'œil qu'on ouvre, qu'on lève. On se demande s'y approcher. Approcher la chose, une chose qui lève sans yeux, une pâle. C'est un truc grossi qu'on sent qui approche. Nous sans approcher, on se. Approcher la chose, une chose qui lève sans yeux, une pâle. C'est un truc grossi qu'on sent qui approche. Nous sans approcher, on voit sans reculer. On se demande s'y approcher. C'est un truc mouvant, sans contour, bouge, se forme, se lève, qu'on dirait qu'on l'appelle en soulevant le. Comme si on soulevait le point d'une feuille, un rideau. Comme si on tassait quelque chose. Comme si on soulevait le point d'une feuille, comme si on tassait quelque chose. On voit quelque chose quand on regarde tout derrière, on débouche sur chose quand. Qu'on sait qu'elle est là, chose qu'on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle.
Ben, on vient, en fait, c'est Arnaud qui vient d'arriver parmi nous. Alors, salutations.
Bonjour, René.
Ça va?
Oui, ça va bien.
Ouais. Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que je fais ici?
Ça fait longtemps qu'on s'est vu.
J'écris pas beaucoup, parce que j'ai très peu de temps pour ça. Voilà, j'étais pris là ces 2 dernières années dans un travail qui m'empêchait, disons, d'écrire. Mais voilà, je vais y revenir très bientôt, dans 1 mois, à l'écriture, à des collaborations, à des lectures, à des performances, à des choses autour et dans l'écriture, quoi.
Ouais. Qu'est-ce que t'as comme pratique de lecture? C'est-à-dire, est-ce que pour toi, la lecture, c'est aussi important que l'écriture, par exemple?
De lecture publique?
Ouais.
Moi, ce que j'aime, c'est pas tant faire des textes dans des revues, faire des livres ou quoi, c'est passer du temps dans une chambre ou dans un extérieur ou sur une table à essayer de faire quelque chose avec de l'écriture, c'est vraiment ça. Mmh. Après, finir des textes, c'est quand même intéressant, pour en commencer d'autres notamment. Lire des choses devant des gens, c'est quand même aussi intéressant par rapport à l'écriture. Moi, ce que j'aime faire quand je lis, quand ça vient en tout cas devant des gens, pas seulement m'arrêter à pas lire de manière pas lire un texte fait, un texte clos et fini, mais essayer devant les gens à ce qu'il se passe toujours un peu quelque chose, au moins pour moi, éventuellement après pour eux, donc de remâcher un peu le texte, de le refaire, de redécaler, de contredire éventuellement certains énoncés du texte, certaines phrases, d'essayer de continuer à travailler devant les personnes, d'une certaine manière, pour que les gens soient là et voient et entendent de l'écriture aussi, avec sa dimension présente, vivante, vibrante, quelque chose qui est là, qui aurait pu ne pas y être, mais hop, qui est là à la seconde, disons.
Et ouais, c'est super.
Donc,
Est-ce que t'as envie de lire là?
Oui, je voulais bien lire un petit texte, alors qui est issu d'une chose particulière, qui est une demande d'un metteur en scène et d'un performeur qui est à Marseille principalement, qui s'appelle Laurent de Richemont. Il m'a demandé de faire un texte pour son prochain spectacle qui s'appellera Mon corps est nul, et qui est une sorte de pièce chorégraphique. Et d'ailleurs, mon texte, je l'ai un peu commencé à l'écrire, à le noter en écoutant les choses
qui étaient dites
en
dans
les écoutant en passant.
Ouais.
Il y a des images d'enfants que je garde de mon enfance. Il y a des ciels, par exemple, il y a des ciels que je garde en mémoire, des ciels de quand j'avais 7 ans, que je vois, je les vois encore. Et ces ciels de mes 7 ans que je garde en mémoire, ils sont toujours actifs dans ma tête, au niveau des pensées. Il y a vraiment des ciels que je garde en mémoire et qui sont des spectacles de bleu, et qui sont des nuages, et qui sont des tempêtes, comme des tempêtes de mer, comme une tempête de mer en plein ciel, comme une pensée notée sur une feuille, et qui ne s'arrête plus jamais de tout noter et de tout dessiner dans le ciel, comme un dessin au sperme dans le ciel, lancé comme ça, un dessin qui ne s'arrête plus jamais de tout dessiner dans le ciel, un dessin animé comme ça. Au sperme. Et parce qu'il y a des spectacles de tempêtes de mer dans le ciel qui, électrisés par la foudre, donnent des courts-circuits. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le tonnerre sur les villes vient en fait du spectacle de la mer dans le ciel de la tête, qu'on garde en mémoire, en fait, au niveau des pensées et au niveau du sperme et au niveau du sac de réceptacle du sperme dans l'oreille interne. Parce que l'oreille interne, c'est une sorte d'ovaire acoustique et de réceptacle sonore du ballet de sperme dans le ciel animé, dans le ciel avec la foudre. Parce que c'est la foudre qui anime l'énergie du dessin et l'énergie de l'ouïe au niveau de la parole. Et l'énergie. Je me souviens, il y a des énergies d'enfants que je garde encore actives en mémoire, au niveau des muscles et au niveau de l'endomorphine. Il y a un ressort d'énergie dont je garde la mémoire dans le corps et qui vient de l'enfance et qui me vient du spectacle des ciels pendant l'enfance de mes 7 ans et qui vient de tous les spectacles de mon enfance car d'une certaine manière, c'est pas seulement les ciels qui sont un spectacle, c'est tout ce qui est un spectacle pour l'enfant, un spectacle de terreur parfois même. Et d'ailleurs, quand j'étais enfant, je croyais que les poils des femmes, c'était le sexe des femmes, en fait. Je veux dire que je croyais que le pubis des femmes, c'était le sexe lui-même. Et je comprenais pas comment ça pouvait marcher, ni à quoi ça pouvait marcher, c'est-à-dire que je croyais qu'il y avait rien en dessous, qu'il y avait rien en dessous des poils, et que le sexe féminin, c'était ça, une masse de poils. Et je me demandais comment, avec des poils, on pouvait reproduire l'espèce humaine. Et j'essayais de me représenter des choses, et j'essayais d'imaginer des choses. Mais je n'arrivais pas à imaginer comment on pouvait reproduire l'espèce humaine avec seulement une touffe de poils. Mais bon, je savais déjà que j'étais un petit enfant, mais je savais déjà que quand même que les hommes avaient des pénis, et que les femmes donc avaient des poils avec rien dessous, et que c'était avec ces deux choses-là qu'on reproduisait l'espèce humaine, mais je n'arrivais pas à imaginer de quelle manière un pénis et une touffe de poils pouvaient collaborer pour arriver à fabriquer un bébé qui reproduise l'espèce humaine. J'y arrivais pas, et évidemment, ça m'angoissait. Ça m'angoissait, évidemment, parce que j'avais un gros chaînon manquant, j'avais un gros trou, ou plutôt j'avais une grosse zone d'ombre dans la chaîne, parce que j'avais déjà pas mal d'éléments de représentation de l'appareil sexuel humain, sauf que j'avais une erreur. une erreur pas trop grave, qu'on pourrait appeler une erreur de jeunesse, en la présence de ce sexe de femme que je croyais être uniquement de poil. Et là, avec cette erreur, là, je pouvais pas faire la jonction. Et je pouvais pas faire la jonction entre un pénis et des poils, ça marchait pas. Et alors j'angoissais, et j'étais tout petit, et déjà j'étais dans l'angoisse à cause de ça. Etc.
Merci. Deux choses, en fait, par rapport à ta lecture. On dirait vraiment que tu es en train de parler, en fait. On dirait que je pourrais t'entendre, si on t'entend à la radio samedi, puis que les gens, ils s'intonisent dans le milieu de ton texte, ouais. Qu'ils pourraient penser que tu es en train de me parler.
Oui, c'est ce que je faisais, d'ailleurs, d'une certaine manière. Mais ouais. Oui, ça, c'est... ce texte, il est particulier parce qu'effectivement, il est la proximité avec la parole quotidienne, disons,
ouais.
Légèrement vrillée parce que, disons qu'il y a pas mal de monde finalement qui pourrait parler ou dire des choses comme ça.
On reconnaît quand même le travail, on reconnaît le travail de l'écriture.
Oui, voilà. C'est-à-dire, je pense qu'il y a pas mal de... On est très interrompu en fait quand on parle. Donc ouais. On a... Si on l'était moins... Je pense que voilà, tout le monde sortirait sortirait de son cerveau des images un peu plus singulières, rêches, personnelles, vrillées, et dans un flot et une parole un peu plus aussi elle-même vrillée, rêche, distordue. Après, effectivement, c'est le même matériau que ce que tout le monde dit chaque jour, c'est la même chose, sauf que, celui qui fait ça, qui brasse ça, l'écrivain ou le poète, il est dans une zone où majoritairement on va pas ou peu ou rarement.
Ouais.
Pour moi en tout cas, j'aime bien quand des gens par exemple qui ne lisent jamais ou quoi entendent ça et le reçoivent et le reçoivent comme une chose bête mais éventuellement chouette pour eux ou nul, peu importe, mais qu'ils le reçoivent. Mais du moins, j'aime bien qu'il y ait des... Pas censurer les motifs ou les thèmes qui sont parlés dans le texte. J'aime bien que ce soit des choses, même parfois, qui peuvent me faire un peu honte, quoi, que je trouve vraiment un peu limite, niaise, vraiment triviale ou commune, quoi, au sens où il y a quand même une connerie commune, quoi. Mm-hmm. Mais quand même, je me dis, non, il faut quand même que ça... existe et que ça existe avec art d'une certaine manière, que ça existe pas en soi mais que ça existe ramené, façonné dans l'écriture, par l'écriture quoi.
Ouais.
C'est ça qui me plaît bien.
Ouais. J'aurais envie que peut-être tu choisisses un autre texte.
Ouais, d'accord.
Je te donne toute liberté de choisir.
Ouais. Peut-être quelque chose de pas très long. J'avais pensé à un texte un peu pas récent mais qui était court. Et qui partait d'une sorte de chose un petit peu biographique, d'une certaine manière.
Ok.
Et qui parle de ce dont on parle maintenant, quoi, qui est de l'écriture et de sa réception et de la tension entre le travail d'écriture et le non-travail de la langue commune, quoi. La femme, elle me demande. Dans vos livres, qu'est-ce que vous racontez ? Je lui réponds que dans mes livres, je raconte ce que je dis. Elle me dit, je comprends pas. Je lui réponds que moi non plus, je comprends pas. Elle me dit, c'est embêtant ça, si même vous, vous comprenez pas, c'est embêtant ça. Je lui réponds que oui, c'est embêtant de pas comprendre ce qu'on fait, mais qu'à la longue, on en rigole. Elle me dit, je comprends rien à ce que vous dites. Je lui dis que oui, c'est normal de pas comprendre ce que je dis, parce que moi-même, je le comprends pas. Elle me dit que là, on tourne en rond. Je lui réponds que voilà, c'est ça, c'est que dans mes livres, on tourne en rond. Elle me répond que donc, l'idée de vos livres, c'est qu'on tourne en rond. Je lui dis que oui et non. Elle me dit, bien sûr, oui, c'est oui et non, ça peut pas être simple, bien sûr. Je lui dis que voilà, dans mes livres, c'est le « et » qui tourne en rond. Elle me dit, c'est compliqué. Je lui dis, bof, pas trop. Elle me dit, oui, le « et » qui tourne en rond, ça c'est compliqué, ça. Je lui réponds que, mais s'il n'y a rien à comprendre, ça peut pas être compliqué. Elle me répond, oui, ça c'est vrai ça. Je lui réponds que, dans mes livres, je ne dis que des choses vraies. Et elle me dit, et là ce qu'on dit, c'est vrai, non ? Je lui réponds que là, oui, c'est vrai ce qu'on dit. Et elle me dit que donc ce qu'on dit là, ça pourrait être dans un de vos livres. Je lui réponds que oui.
C'est super.
C'était un...
C'est amusant aussi.
Ouais.
On sent bien le plaisir, en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Dans ce que t'écris, ouais. Le plaisir d'écrire.
Ouais, ça me plaît.
Qui est là?
Oups. Finalement, on va pas terminer avec qui est là parce qu'on a quelque chose de plus approprié pour terminer. Alors, on va faire... c'est Ludovic qui va nous lire un extrait de Scène de la vie occidentale qui est paru au Cartanier en 2005 et va nous lire le début. J'aurais bien dit « Incipit », mais comme on s'entendait pas sur « Incipit » ou « Incipit », ben, je vais dire le début.
Alors, le début. Ici Radio Vivant, nous sommes les êtres et nous parlons en direct du lieu de nos histoires. Ici Radio Herbe, avec les ondes de couleur. Ici Radio Béton, avec le bruit des bétonnières. Le bonheur est une idée ancienne en Europe. Ici Radio 2002, qui dans les rues ouatées, diffuse le plaisir par vagues sur les petits-enfants de Radio 1945, Radio Peur. Des vibrations nous traversent et déposent des notes dans nos cerveaux. Ce sont des haut-parleurs qui envoient des fluides. Stop! Une stimulation atteint un récepteur sensoriel et nous faisons face. Deux stimulations passent en un laps de temps éclair. Nous sommes scotchés à la vérité. Franchement, qui est ce bruit que personne ne connaît par ici? C'est le son de la marée. Nous habitons au bord de la mort, là où il fait très chaud. Nous voici sable, galets, jeunes hommes et jeunes femmes en bikini, au soleil de notre situation historique. Ici Radio, nous cherchons à comprendre. Nous voulons désensabler la réalité. Ici Radio pare-brise avec dedans le ciel nocturne qui défile puis qui gît. Il est temps de descendre. Nous ne savons pas si nous allons monter. L'ascenseur gravit l'espace, l'influx nerveux provoque le mouvement du muscle. J'essaye de compter jusqu'à 3 et je vois ce qui arrive. Nous avons une course à faire et personne ne franchit jamais la ligne. Il est maintenant quasi certain que nous monterons. Je ne reste pas. On m'attend. Arrivé à 40, je débraye, puis j'embraye. Vive détruire. Ici Radio, dans la tête, et que personne ne bouge. L'info de ce soir est qu'une armée secrète d'oiseaux citadins mange du fer et tyrannise de dociles végétaux urbains. Fait souhaitable. Absorption massive par la racine des plantes de résidus décomposés des benzodiazépines jetés par les habitants. Stationnement le plus court possible du véhicule de la maîtresse devant le domicile de l'amant et génération automatique de simulacres d'amour. Acceptation réciproque des déformations imaginaires d'autrui à l'aide du plus connivant des silences. Stop, j'ai dit. Que personne ne bouge. Ici Radio Amour, l'un pleure, et l'instant d'après, il pleure encore. L'autre rit, et puis l'instant d'après, il réfléchit. Une émission réalisée avec la collaboration de l'air et de la lumière, la participation exclusive du carbone. Notre programme est toujours nouveau, bien que vous l'ayez déjà entendu l'année dernière. Il est rediffusé tard dans la nuit, avec les phares des voitures, un bouchon à la frontière française, et dans une étable. Il met ses yeux sur elle, puis dans elle. À 5h du matin, après une nuit de travail, la joie d'entendre les oiseaux et d'aller se coucher. Nous ne rentrons pas toujours seuls, mais rarement accompagnés. Radio Amour, avec le sperme et les gestes, et puis Radio Rêve, avec toutes les absurdités qui débarquent.
En route depuis Montréal, au Québec, pour participer à la 7e édition du festival Actoral avec une lecture-performance intitulée Steve McQueen, mon amoureux, René Gagnon s'est arrêté une petite heure pour vous proposer ce bivouac au bord des ondes batraciennes. Autour du feu de camp, elle était entourée de 3 auteurs marseillais, Guillaume Fayard, Ludovic Bablon et Arnaud Calieja, qui vous ont donné à entendre de nombreux extraits de textes publiés ou en cours de travail. Vous pouvez retrouver des extraits de textes de René Gagnon sur le site de la revue Le Cartanier, www.lecartanier.com, ou bien de la revue Monde Francophone, www.mondefrancophone.com. René Gagnon présentera prochainement Lingué Local dans le cadre du festival C'est comme ça, le 9 octobre à Château-Thierry, c'est dans l'Aisne. Pour découvrir les ouvrages ou revues comportant des textes de René Gagnon, Guillaume Fayard, Ludovic Bablon ou Arnaud Calieja, adressez-vous à la librairie L'Histoire de l'œil, c'est 25 rue Fontange à Marseille. Prochain bivouac dans le cadre du festival Actoral, c'est lundi 6 octobre à 18h avec Yann Duivendak. Toute la programmation du festival est sur le site www.actoral.org.